Le ministre iranien des Affaires étrangères et le premier ministre irakien ont évoqué l'essor des relations Téhéran-Bagdad. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer en Syrie un nouveau convoi de véhicules chargés du matériel logistique. Depuis un poste illégal aux frontières irako-syriennes, et l'Égypte ne restera pas inactif face aux problèmes posés par le barrage éthiopien sur le Nil. C'était le titre. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères et le premier ministre irakien ont évoqué l'essor des relations Téhéran-Bagdad. Le premier ministre irak, Mustafa al-Kazemi, a accueilli le dimanche 19 juillet le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, et la délégation qui l'accompagnait. Les deux parties ont discuté des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun sur divers domaines. M. Al-Kazemi a qualifié d'importantes les relations irano-irakiennes et prôné le développement et l'approfondissement de ces relations dans le cadre des intérêts des deux nations et d'une action commune destinée à protéger la sécurité et la stabilité de la région. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que l'Iran s'attendait à ce que les deux pays passent à une nouvelle phase de coopération et qu'ils œuvrent pour la mise en application des accords déjà signés entre Téhéran et Bagdad. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est également entretenu avec son homologue irakien, Fouad Hossein, après laquelle les deux hommes ont participé à une conférence presse. Les relations entre les deux pays sont basées sur le principe du respect mutuel. Les relations économiques entre l'Iran et l'Irak doivent se développer dans l'intérêt des deux pays. L'Irak est l'une des priorités économiques pour l'Iran, a dit M. Zarif, rappelant qu'il était nécessaire que les deux pays soient toujours pleinement prêts face aux menaces sécuritaires des groupes terroristes. À Bagdad, Zarif a aussi rencontré le président irakien Bahram Saleh, le président du Parlement Mohammad Dalla al-Boussi, le président des Hashd al-Shaabi Faleh al-Fayyad, le président du Conseil supérieur de la magistrature Fahir Saïdan et des présidents des partis politiques dont Adil Ameri et Amar al-Hakim. Le chef de la diplomatie iranienne s'est ensuite rendu à Erbil, au Kurdistan irakien, où il s'est entretenu avec le président de la région du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, sur la situation intérieure de l'Irak et les questions régionales, et sur le développement des relations entre les deux parties dans divers domaines, notamment économiques. M. Zarif a aussi une rencontre avec le chef du gouvernement régional, Masroor Barzani, et le chef du parti démocrate, Massoud Barzani. Massoud Moussavi Majd, un espion de la CIA et du Mossad a été exécuté ce lundi matin 20 juillet, a annoncé le porte-parole du pouvoir judiciaire de la République islamique d'Iran. Lors de sa conférence presse avec les journalistes, le porte-parole de la justice iranienne a annoncé lundi matin que la sentence de la peine de mort de Mahmoud Moussavi Majd a été exécutée. Mahmoud Moussavi Majd était condamné à la peine capitale pour espionnage en faveur des services de renseignement du Mossad et de la CIA. En recevant des dollars américains, Moussavi Majd avait recueilli des informations et les avait fournies aux services ennemis. Ces informations étaient liées aux instances iraniennes de la sécurité, en particulier aux forces armées et à la force Quds du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique. Le porte-parole de la justice iranienne a également précisé que l'une des charges retenues contre cette personne était d'annoncer à différents moments les localisations du général de corps d'armée, le général martyr Rassem Soleimani et de certains commandants militaires. Ces informations ont été utilisées par les services de renseignement de la CIA et du Mossad. Les forces d'occupation américaines ont fait entrer en Syrie ce lundi 20 juillet un convoi de véhicules chargés du matériel logistique via un poste illégal sur les frontières irako-syriennes. Cité par le correspondant de Sana, l'agence d'information officielle syrienne, des sources civiles ont fait noter que les forces d'occupation américaines avaient fait entrer un convoi chargé d'équipements militaires et du matériel logistique dans leur base illégale sur les territoires syriens. Elles ont fait savoir que le convoi inclut 65 véhicules composés de camions et de véhicules à mer et qui s'étaient dirigés vers la base américaine illégale dans la zone de Kharab al-Jir, dans la banlieue de Malkaya. La veille dimanche, plusieurs habitants du village de Farfara, au nord de la ville de Ramishli, étaient descendus dans la rue pour demander le retrait des forces américaines et turques du territoire syrien, selon des sources locales. Les manifestants brûlaient un drapeau des États-Unis. Des manifestations similaires ont eu lieu dans le village d'Al-Roussair, dans la banlieue de Ramishli, en protestation contre les sanctions américaines contre l'économie syrienne. Les protestataires ont mis l'accent sur le retrait des forces américaines et turques. Les habitants habitants du village d'Abu Zawil, au sud de Ramishli, avaient organisé jeudi dernier des manifestations similaires contre l'ingérence turque et américaine dans la région. Ils réclamaient le retrait des forces américaines et turques. Les manifestants leur saluaient les efforts de l'armée syrienne pour nettoyer le territoire national de la présence des terroristes et expulser les militaires turcs et américains des territoires occupés syriens. Quittons la région et allons en Europe, où les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis en sommet spécial depuis vendredi à Bruxelles ont entamé dimanche leur troisième jour de négociation avec la question de l'état de droit au cœur des conditionnalités du plan de relance de l'économie européenne. Pour les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne, il faut aplanir les différentes positions et trouver les bons compromis afin d'adopter un plan de relance économique et budgétaire à long terme face à la crise inédite du COVID-19. Les débats s'annoncent une fois de plus difficiles avec la question de l'état de droit, socle des principes et valeurs européens. Cette question est l'une des conditions pour qu'un État membre puisse bénéficier du fonds de relance. Un large consensus en la matière a été obtenu au sein des dirigeants européens lors des discussions de samedi. La Pologne, tout comme la Hongrie, refuse que la distribution du fonds européen soit conditionnée par l'état de droit. Les pays tels que les Pays-Bas, la Finlande ont demandé plus de contrôle sur le fonds de relance européen, plus de démarches intergouvernementales, plus de réformes auprès des pays bénéficiaires du fonds de relance. Ouvrons maintenant la page de l'actualité africaine. Le ministre égyptien de l'Irrigation et des Ressources en eau, Mohamed Abdelhati, a déclaré dimanche que l'Égypte ne resterait pas les bras croisés face aux problèmes posés par le grand barrage de la Renaissance d'Éthiopie, GERD. Le ministre a tenu ses propos au cours d'une réunion organisée par la Commission des petites et moyennes entreprises du Parlement en vue d'explorer la possibilité d'offrir des prêts aux agriculteurs qui souhaitent moderniser leur système d'irrigation, a rapporté le site d'information étatique Ahram Online. Il a révélé que la stratégie actuelle du ministère se concentrait sur l'optimisation de l'utilisation de l'eau du Nil dans les projets agricoles, soulignant que le gouvernement était en train de généraliser les systèmes d'irrigation par aspersion pour remplacer les anciens systèmes par submersion. L'Afrique du Sud, qui préside actuellement l'Union africaine, a invité l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie à participer à un mini-sommet sur le GERD le 21 juillet. Cette invitation intervient quelques jours après que les trois pays ont mis fin à une série de négociations sur l'affaire, sans être parvenus à un accord sur le remplissage de ce barrage géant. L'Éthiopie a commencé à construire le grand barrage de Renaissance en 2011. L'Égypte, un pays situé plus en aval, dépend largement du Nil pour son approvisionnement en eau douce et craint que le barrage n'affecte les 55,5 milliards de mètres cubes d'eau qu'elle reçoit chaque année du fleuve. Au Mali, la force d'occupation qui tente de détourner les manifestations anti-Barkhane du peuple malien en une révolte anti-Ibeka semble avoir compris que ce peuple intelligent et conscient ne marche pas sur les pas occidentaux et c'est pour cela d'ailleurs qu'il compte désormais sur la diaspora malienne afin de détourner les attentions des vraies intentions de ces manifestations. La diaspora malienne au Canada demande au gouvernement de Trudeau de réagir face aux manifestations au Mali, peut-on lire dans les médias occidentaux. Comme à son habitude, la force néocolonialiste tente par le biais de la diaspora de mener sa campagne de pression et de chantage. Mais cette dernière sait très bien que l'expérience du peuple malien n'est qu'une chose, que Barkhane dégage. À preuve, les forces armées maliennes sont de retour à la baie Zanga. Dans la région des trois frontières où les forces armées maliennes, FEA-MAS, les FDS, etc. poursuivent leurs opérations antiterroristes et accumulent les victoires. Bien que les médias mainstream tentent de donner une autre version de cette information importante, celle de l'appui et du rôle de Barkhane dans le retour des forces armées maliennes dans cette région, le peuple malien le sait. C'est en faisant dégager Barkhane que les FEA-MAS ont fait leur retour dans cette région. L'exigence de plus en plus grandissante du peuple malien, du retrait des forces étrangères de leur sol, l'échec des plans de démembrement constitue de terribles défaites pour un G5 Sahel qui tente de se ressaisir via de nouveaux complots, mais cet axe est totalement dans l'impasse et l'évolution des faits au Sahel le prouve clairement. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Ciel, premier face-à-face Israël-Syrie, c'est le titre du commentaire politique. Dans cette première mise en garde post-signature du pacte militaire Syrie-Iran au régime israélien, lancé il y a 4 jours par le porte-parole des forces armées iraniennes, le général Shekarchi, les Israéliens semblent avoir bien retenu la partie la plus importante, à savoir que le moindre agissement contre la résistance en Syrie aura désormais, à la faveur du verrouillage du ciel de l'Est syrien, un lourd tribut. Mais il n'y a pas eu que cela. En dressant la liste de 8 officiers iraniens tués depuis 2013 dans des raids d'Israël visant la Syrie, le général Shekarchi aurait envoyé 2 messages. Primo, mettre définitivement un terme aux rumeurs, à la propagande et fanfaronnade médiatique d'Israël qui vise, à défaut d'une victoire ne serait-ce que petite en Syrie, à se décrire en puissance aérienne absolue, capable encore de peser sur le rapport des forces au Moyen-Orient. Mais le général iranien a voulu aussi mettre au défi l'entité israélienne, car la mort des officiers iraniens tués dans les raids israéliens est ce crime suprême à être absolument vengé. D'où sans doute cet appel précipité de Gantz, ministre de la guerre d'Israël, à son homologue russe, et ses supplications maquillées en menaces creuses anti-iraniennes auprès de ce dernier, lesquelles supplications axées sur l'éternel « l'Iran devra quitter la Syrie » n'ont fait ni chaud ni froid au général Shoigu. D'où aussi cette perte de confiance en soi qui fait que l'aviation sioniste rôde autour de la Syrie depuis l'annonce de l'arrivée des batteries de missiles antimissiles iraniennes dans l'est syrien, et ce sans oser passer à l'acte. Interrogé par la presse, un ancien officier israélien du service de sécurité du Shin Bet, Yoni Ben Menachem, fait écho à cette profonde crainte. La signature de l'accord Syrie-Iran est une mauvaise nouvelle, puisqu'elle signifie que la Syrie pourrait passer du statut de cible passive des frappes israéliennes au statut de cible active capable de riposte, ou pire, au statut d'agresseur. Les Iraniens l'ont très clairement dit, avec une présence désormais durable, un appui en armement et en renseignement à la Syrie, celle-ci ne restera pas les bras croisés face à Israël. Le dimanche 19 juillet, 6 avions de combat et 2 drones de l'armée de l'air israélienne ont ainsi violé l'espace aérien libanais, comme toujours faisant semblant de préparer des attaques. Des avions de guerre et des drones de l'aviation israélienne ont mené une mission de reconnaissance près des frontières syro-libanaises. Jusqu'ici, les forces de défense aérienne syrienne n'ont pas visé les avions de combat israéliens au-dessus du Liban. Mais les choses sont bien différentes désormais. Les systèmes antimissiles iraniens sont désormais aux aguets. Après tout, aucun élément de bouclier antimissile israélien n'a fait preuve d'autant d'efficacité que le Khorda 3, tueur du drone Global Hawk US en 2019. Les roquettes de Gaza ont des milliers de fois réussi à perforer la DSA multicouche israélienne. Le Khorda 3 a toutes les chances de contrer les missiles de croisière et les drones israéliens partis abattre les cibles syriennes ou pro-Iran. Quant au Bavar 373, les craintes que devra nourrir Israël devraient être plus larges. Les inquiétudes sont encore plus grandes quant à la dernière version de cette DCA qui semble être basée sur un camion Zuljana avec 4 lanceurs de conteneurs rectangulaires montés à l'arrière du châssis. Chaque conteneur contient un missile Sayad 4. Selon l'industrie iranienne de la défense, le Sayad 4 a une portée de 300 km, largement suffisant pour atteindre les avions israéliens au Liban, en Jordanie, voire en Irak, et peut atteindre une altitude de 27 km.